sujet que j'ai eu à cœur, qui a été un sujet de méditation pour moi cet été. Souvent, hein, pendant les vacances, j'ai à cœur un sujet et je prends le temps de creuser. Il y a plusieurs semaines devant et je médite là-dessus. La foi ou la raison? Alors, je sais, Isabelle m'a dit, Daniel, il est parti où Daniel? Ah, il est sorti. Oui, Daniel Scherrer, ton Daniel. Oui, il a prêché sur la foi dimanche dernier, Isabelle m'a dit. Alors, je me suis refusé d'aller écouter ce qu'il a dit pour ne pas être influencé et pour restituer ce que j'avais sur le cœur de donner sans m'occuper de ce qui a été dit. Alors, ce sera peut-être complémentaire, ce sera peut-être une piqûre de rappel. Si c'est une piqûre de rappel, c'est que le Seigneur juge que c'est nécessaire. Mais voilà, je n'ai pas écouté ce qu'il avait dit. Et voilà, alors c'est peut-être pas bien, hein, parce que j'étais de l'autre côté avec les grands. Mais bon, vu le contexte, je me suis dit, je ne vais pas écouter pour ne pas être influencé. Voilà, donc on va méditer sur la foi et la raison. Vous devez deviner où on va arriver. Et puis aussi sur l'importance de la foi dans notre vie chrétienne. Je pense, est-ce que vous avez l'impression que la foi en Dieu, c'est quelque chose d'important? Je pense. Hein. Oui, ça va, il y a des oui. Parce que si j'avais eu des non, je me serais dit, je ne suis pas au bon endroit. Alors, je vais commencer par lire dans l'introduction des versets qui ne sont pas dans le diapo. Je vais vous les lire. Vous allez les écouter au lieu de parler, d'expliquer des choses. Je vais lire. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans Romains 10:17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la prédication de l'Évangile. » Et donc dans la foi, humainement, il y a de la folie. Aux yeux du monde, vous devez le sentir, hein, on est pris pour des fous. Oui, on est des fous, mais c'est pas grave. Nous sommes des fous heureux parce qu'on a rencontré Jésus-Christ, il agit dans notre vie et entre fous, on se réjouit. Mais ceux qui raisonnent, qui se croient plus sages, les pharisiens par exemple, se croyaient sages, ils n'arrêtaient pas de raisonner en contredisant Jésus, en affichant la loi. Ils contredisaient Jésus, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ils étaient sages. Est-ce qu'ils ont trouvé le salut? Est-ce qu'ils ont trouvé Christ? Non. Non. Parce que pour trouver Christ, il faut être fou. La foi, donc, a une part de folie, c'est-à-dire une part de ce qui est contraire à la raison. Et on va parcourir la Bible, pas toute la Bible en fait. Hein. On va parcourir dans l'évangile de Matthieu, il y a plein d'exemples qui mettent en opposition la foi et la raison, mais aussi la nécessité de la foi pour voir Jésus agir dans notre vie. Et ça, c'est tellement nécessaire et c'est vraiment quelque chose que j'ai sur le cœur. Alors, on va commencer par une première histoire. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait peut-être couper la lumière. Oh, il n'y a pas Jacques. Voilà. Alors, on va lire une première histoire. Ça va, la police ? C'est lisible, Michael ? Ça va ? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, qui venait de ces contrées, donc de contrées qui ne faisaient pas partie du territoire d'Israël. Elle lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Imaginez, moi j'aime bien essayer de m'imaginer la scène. Il y a quelqu'un qui crie, qui est dans la détresse, et Jésus, est-ce qu'il lui répond ? Non, rien, silence radio. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Oh, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » On imagine les disciples qui observent Jésus, hein, et ils se disent, oh, « Elle ne lui répond pas. » Bon, ben, c'est qu'elle lui casse les pieds. Donc, on va aller dans son sens. Oh, « Seigneur, renvoie-la. Hein. » On imagine les disciples, hein, ils sont en cours d'apprentissage au contact de Jésus. « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et Jésus répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ouf, ça fait mal quand même cette réponse. Hein. Ça sous-entend, toi, t'en fais pas partie. Donc, c'est pas pour toi. C'est curieux hein, comme réponse. Mais elle vint se prosterner devant lui. Donc, cette femme revient à la charge. Seigneur, secours-moi. Et Jésus répond : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Pouf. C'est dur quand même. Hein. Vous ne trouvez pas ? Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'était le peuple, c'était eux qui mangeaient à table, et les autres, ils ont ce qui reste. Et cette femme répond, « Oui, Seigneur, mais... les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Waouh ! Cette femme cananéenne, elle ne connaissait pas Jésus. Elle en avait sûrement entendu parler. Elle avait entendu parler de Jésus et de tous les miracles qu'il faisait. Sinon, elle ne serait pas venue l'implorer pour délivrer son enfant. Elle avait senti qu'en venant le voir, elle pouvait avoir une solution à son problème. Alors elle ose s'adresser à lui pour sa fille. Elle n'a pas raisonné en se disant « Ben non, je peux pas, je fais pas partie de son peuple », mais c'est justement sur ce point-là que Jésus l'a titillé. Et quelle a été la réponse de cette femme ? Est-ce qu'elle a été hautaine ? Elle aurait pu dire « Ah bon, c'est pas pour nous. Ah bon, ben c'est comme ça, ben je m'en vais. » Quelle a été son attitude ? Moi, j'admire son humilité. Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire qu'elle a reconnu la supériorité de Dieu et de son peuple élu, parce qu'à l'époque, ben, le peuple d'Israël, c'est l'étiquette, c'était le peuple élu par Dieu. Et alors, que lui dit Jésus ? Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'il te soit fait comme tu veux, et dans d'autres traductions, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous savez, ce dialogue qui a eu lieu là, Jésus connaissait, hein, l'état de cœur de cette femme. Mais c'est écrit, Jésus il a exprimé tout ça pour que ça ressorte et que ça puisse être écrit, parce qu'on a besoin de le savoir. Parce que Jésus n'avait pas besoin de titiller cette femme. Il savait très bien ce qu'il y avait dans son cœur. Il savait que cette femme, même si elle ne faisait pas partie du peuple élu de Dieu, elle avait la foi, elle croyait en lui, et c'était suffisant pour recevoir la guérison de sa fille. Mais Jésus a voulu que les choses soient verbalisées pour être écrites, parce qu'on a besoin, pour notre instruction, on a besoin de savoir. Et nulle part, il est dit que cette femme, elle croyait et qu'elle avait la foi en Jésus. C'est Jésus qui le dit tout à la fin. « Femme, ta foi est grande. » Et dans cette foi, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'on voit? Les constituants qui sont verbalisés, c'est qu'elle a beaucoup d'humilité. Dans la foi, il y a de l'humilité. Elle a bien compris qu'elle était petite devant Dieu. Dans la foi, dans sa foi qui est décrite, qui est que Jésus a pointé du doigt, il y a cette acceptation de comprendre qu'elle est petite et que Dieu est plus grand. Et on le verra dans d'autres exemples. L'humilité, se voir petit devant Dieu, ça fait partie de la foi. Vous vous rendez compte? Quand elle a répondu, « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Ça ne l'a pas dérangée de voir qu'elle était comme un petit chien. C'était pas grave. Tout ce qu'elle voulait, c'était venir à Jésus et être touchée par lui. Et que dit Jésus? Ta foi est grande. Vous vous rendez compte? Est-ce que Jésus peut nous le dire? Ta foi est grande. On va regarder un autre exemple. Dans Matthieu 14, donc la diapo suivante, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena une partie des malades, tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ce n'est pas une partie de ceux qui le touchèrent. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Qu'est-ce qu'on aimerait bien que ce Jésus passe au milieu de nous et on toucherait le bord de son vêtement. Vous trouvez pas que ce serait super? On toucherait le bord de son vêtement et on serait guéri. Tous. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. C'est pas dit, hein, mais il y a peut-être des malades qui ne sont pas venus le toucher. Tout ce qu'on sait, c'est que tous ceux qui l'ont touché ont été guéris. Ça peut sous-entendre qu'il y en a qui ne l'ont pas touché et qui n'ont pas été guéris. Mais ceux dont on est sûr, c'est que tous ceux qui ont touché le bord du vêtement de Jésus ont été guéris. Ils ont vu Jésus passer. Ils sont venus à lui parce que ils croyaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Ben bien sûr. Ils ont cru de tout leur cœur qu'en venant à Jésus, il y avait une solution à leur problème. Et ils sont venus, ils ont touché le bord du manteau de Jésus et ils ont été guéris. Alors on va voir un exemple où la foi a marché au début, puis d'un seul coup, ça n'a plus marché. Vous connaissez sûrement l'histoire. Matthieu 14, 22, 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Moi j'aime bien, je l'ai mis parce que j'aime bien ce petit paragraphe. Même Jésus s'isolait pour prier, pour se ressourcer auprès du Père. Même Jésus en avait besoin. Combien plus nous en avons besoin encore. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Donc les disciples, hein, Jésus, c'est marrant, hein, il a obligé les disciples à monter dans la barque. Hein. Ils n'ont pas répliqué. Allez, hop, on monte, on obéit et on y va, on rame. La barque était déjà au milieu de la mer. Elle était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, donc pas mal de temps après, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent « Ah, c'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre, qui était le plus... celui qui pétait d'énergie, hein, qui était toujours le plus spontané, Pierre lui répondit « Ah Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» Et Jésus lui dit « Bah viens !» Vous imaginez, hein, ça bougeait. Qui s'est déjà trouvé dans un bateau et que ça bouge? Moi. Et ce n'était pas un bateau pour aller en Angleterre. J'ai déjà vécu ça. Il bougeait, mais c'était un grand bateau. On se sent quand même en sécurité, même quand ça bouge. Moi, avec Anne, on s'est déjà trouvé dans notre canoë-kayak, notre pirogue. Et quand on est parti, la mer était calme, et en cours de route, il y avait de ces vagues, de ces creux, et franchement, c'était chaud. On est arrivé à bon port, mais avec beaucoup plus de temps que prévu. Isabelle s'inquiétait. On est des aventuriers de la mer, hein, mais ce jour-là quand même... Quand je voyais les vagues arriver, j'arrêtais pas de corriger la direction de la barque pour être en face des vagues, pour pas en prendre une de côté, sinon on était fichu. Hein. Et Yann me disait « Mais papa, pourquoi tu changes de direction ?»« Oui, Nanou, c'est pas la direction où il faut aller, mais si on prend les vagues de côté, on est cuit. » Donc tant pis, il fallait corriger le cap sans arrêt, puis se dépêcher entre les vagues, mais vraiment. Et là, j'imagine les disciples... Comment ça devait être chaud de voir, ils se battaient, ils ramaient, et puis d'un seul coup, en plus, un fantôme qui arrive. Oh ! Et Pierre, il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et là, Pierre, qui est-ce qu'il regardait ? Jésus. Il regardait Jésus, et peut-être sans s'en rendre compte, il a enjambé le bord de la barque pour sortir de la barque, pour aller vers Jésus. Vous imaginez? Imaginez-vous, moi j'aime bien essayer de m'imaginer. Voilà, c'est moi. Je sors de la barque. Je me mets à marcher vers Jésus. Et Pierre a marché sur l'eau. Il regardait Jésus et il marchait sur l'eau. Est-ce que la tempête s'est arrêtée? Pas du tout. La tempête continuait. Et Pierre s'est mis à regarder la tempête. Il s'est mis à regarder les vagues. Et là, c'est la raison qui est repassée dessus. Ben ouais, quand même, c'était pas raisonnable de se trouver dans une posture pareille sur la mer, avec un vent pareil. La raison, c'était de rester dans la barque tant qu'elle arrivait à tenir. C'était pas de marcher sur l'eau. Et là, il a pris peur. Et dès qu'il a pris peur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à s'enfoncer dans l'eau. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et le félicita. Mais Jésus, il est clair hein, dans ses explications. C'est simple. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Tout le temps que Pierre regardait Jésus, tout allait bien. Dès qu'il a regardé son problème, la tempête autour, le contexte, il s'est mis à couler. Vous savez, c'est super important. On le sait, quand on roule à vélo, de regarder où on va. Je fais du parapente, j'ai la chance de pouvoir voler. Et je sais qu'il faut toujours ne pas quitter des yeux le cap, là où on veut aller. Si on regarde ailleurs, on va aller ailleurs. Quand on va se poser, s'il y a un danger, il y a un rocher, si on se pose sur la plage, s'il y a un rocher, il ne faut pas le regarder. Il faut savoir qu'il est là, hein, mais il faut regarder là où on doit aller. Parce que si on regarde le rocher, on va se mettre dedans. À vélo, en voiture, c'est la même logique. Si je regarde sur le côté de la route, je vais partir sur le côté. Je regarde devant. C'est là où je dois aller. Et dans le monde spirituel, ce n'est pas différent. Si je veux marcher vers Jésus, alors je regarde Jésus. Alors, ça ne veut pas dire je ferme les yeux, j'ai aucune conscience. Ce n'est pas faire abstraction de la réalité. Je sais la réalité, je la connais. Mais je regarde à Jésus. C'est lui qui me guide vers la solution. La solution se trouve en lui. Pierre, quand il a regardé ce qu'il y avait autour, il n'a plus regardé Jésus et il a coulé. Notre attitude, la décision, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous regardons, c'est déterminant pour notre vie spirituel et pour ce que nous allons vivre avec Dieu. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, lui a dit Jésus. Et ils montèrent dans la barque, donc ben, Jésus tenait Pierre par la main, il l'a récupéré hein, pour qu'il ne coule plus, ils sont montés à deux dans la barque, et le vent cessa. À Jésus quand même. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Il n'y a personne qui savait faire ça. Que nous apprend cette histoire ? C'est simple. Je regarde à Jésus. C'est lui qui a la solution. Si je regarde autour, je vais me mettre à avoir peur. Et vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si on regarde ce qui nous entoure, croyez pas que la raison nous dicterait qu'il est normal d'avoir peur. Si, la raison nous dicterait qu'il est normal d'avoir peur. Jésus nous demande d'avoir les yeux fixés sur lui. On continue. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Alors c'est encore une autre histoire, hein. C'est pas le même que tout à l'heure, la même que tout à l'heure. Car cette femme se disait en elle-même, « Ah, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » On connaît tous cette histoire, hein, de cette femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans. Jésus se retourna et lui dit en la voyant, « Prends courage, ma fille. Ta foi t'a guérie. » Pourtant, ça ne se voyait pas, hein. Elle a été très discrète, parce qu'une femme qui perdait du sang comme ça, elle était impure. Fallait pas la toucher, tout ce qu'elle touchait devenait impur. C'était secret. En secret, elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus n'a pas fait comme les pharisiens auraient fait. Va, impur, arrière de moi! Bah si, ils auraient fait ça, hein. Jésus. La Bible n'est pas très exhaustive là-dessus, mais quand on lit les paroles, « Prends courage, ma fille. » Mais c'est une parole amicale, ça. Déjà, « Ma fille. » Waouh. Imaginons, Jésus, c'est à nous qui dit ça. On est venu toucher en cachette, et il n'y a personne qui le sait. Il y a toute une foule, parce que je crois que c'est dans Luc, où là, ben, quand Jésus dit « Ah, il y a quelqu'un qui m'a touché bah, !» Puis les disciples disent « Bah, c'est pas vraiment étonnant qu'il y a quelqu'un qui a été touché, tu vois pas tout le monde qu'il y a autour. » Ah oui, mais non, là c'était quelqu'un qui avait touché d'une façon toute particulière. C'était une femme de foi qui avait touché le vêtement de Jésus parce qu'elle croyait qu'elle avait la solution auprès de lui. Et Jésus a voulu que ça se sache. C'est pour ça qu'il l'a dit. « Oh, ma fille !» Cette femme, regardée comme impure, était appelée « ma fille » par Jésus. Ah, oh, ça fait du bien. Elle n'était pas jugée. Elle n'était pas regardée comme quelqu'un d'infréquentable, de sale. Ma fille, prends courage. Vas-y, avance, continue. Et qu'est-ce qui a guéri cette femme? Nous, on veut dire c'est Jésus, hein. Mais que Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Ah! Tu as cru, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Encore une autre histoire, toujours dans Matthieu. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit, « Ma fille vient de mourir !» Mais viens lui imposer les mains et elle revivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, alors j'ai pris la traduction le semeur, hein, qui est plus explicite. Il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit, retirez-vous. La fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais les gens prirent Jésus au sérieux. Ben non, il y a un mais. Hein. Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, j'aime bien cette traduction, lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, qu'est-ce qu'il a fait mettre dehors? Ben, il n'y a resté que le père. les proches qui étaient venus chercher de l'aide auprès de Jésus. Lorsqu'il lui fait mettre tout le monde dehors, ben c'est ceux qui se moquaient. C'est ceux qui ne croyaient pas que Jésus apportait la solution. Ben Jésus les a fait mettre dehors. Leur présence était indésirable. Leur influence était négative. Alors Jésus les a dehors. Ah, c'était radical avec Jésus. Et quand ils ont été mis dehors, il est entré dans la chambre, il a pris la main de la jeune fille et elle s'est levée. Quand même. Ce responsable juif, il savait qui était Jésus. Il avait compris que Jésus avait la solution. Et il a fait appel à lui. Et moi, ça m'interroge. Il a fait mettre dehors tous ceux qui se moquaient. Est-ce qu'il n'y a pas du ménage à faire en nous ? Quand je parle de la foi et de la raison, est-ce qu'on ne raisonne pas quelquefois au détriment de notre foi ? Est-ce qu'on ne regarde pas quelquefois un peu trop les problèmes au lieu de regarder Jésus ? Est-ce qu'on n'a pas du ménage à faire de mettre dehors de nous, en dehors de nous, tout ce qui nous empêche de croire que Jésus est la solution et qu'il est plus grand que tous les problèmes. Moi, je pense qu'il y a du ménage à faire. Dans Matthieu 9, 27, 30, diapo suivante, lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ?» Jésus connaissait la réponse, hein. Mais il leur a posé la question pour que ce soit écrit. Au moins, il y a sa question et il y a la réponse. « Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Jésus l'a dit beaucoup de fois ça, hein. « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Moi j'aime bien la question de Jésus. « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ?» Est-ce que je crois que Jésus a le pouvoir de toucher ma vie, de toucher mon corps, de toucher mes problèmes. Si tu peux répondre oui, et que c'est profondément vrai, alors Jésus va agir. Mais il faut que tu le croies. Cette démarche, elle est complètement nécessaire. Et c'est pour ça que Jésus l'a répété souvent, qu'il te soit fait selon ta foi. On va continuer avec Matthieu 14. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent. Alors Jésus avait raconté plein de paraboles, hein, avait donné beaucoup d'enseignements. Et voilà, c'est le soir qui arrive et les disciples s'approchent de lui et lui dirent « Seigneur, cet endroit est désert, il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. » Qui est-ce qui parle là? Les disciples? C'est la foi ou la raison? C'est la raison. Bah ouais, bah c'est raisonnable. C'est le soir, c'est la fin de la journée. Tout le monde a faim. Et puis là, bah, Jésus a fini son discours. Il n'y a plus de raison que tous ces gens restent là. ça semble raisonnable de les renvoyer pour qu'ils puissent aller manger dans les villages alentours. Et encore une fois, la réponse de Jésus va faire se confronter la raison et la foi. Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ah, il est marrant Jésus, hein. Mais là, les disciples lui répondirent, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, Seigneur. Que veux-tu qu'on fasse avec ça? C'est pas raisonnable de nourrir tout ce monde avec si peu. Et là, Jésus ne va plus leur répondre. Il va agir. Et il va leur montrer que la raison mène à une solution et que la foi mène à une autre solution. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est les disciples qui ont distribué. Ils ont obéi à Jésus. Il a pris les choses en main lui-même. Et ça a complètement défié la raison. Ça nous scotche, hein? Est-ce qu'on croit en ce Jésus? Est-ce qu'on y croit assez? Ou est-ce que il y a une part de raison, quoi? Peut-être qu'on n'est pas assez fou, qu'on est trop sage aux yeux du monde. On va encore voir un exemple, Matthieu 8. Et là, c'est vraiment explicite. Jésus entrait à Capernaum quand un... Alors ce coup-ci, ce n'est pas un responsable des Juifs. C'est un païen. Un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. » Jésus lui répond, « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Je ne suis pas qualifié. Je ne peux pas. Dans une autre traduction, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Trouvez pas que ça ressemble à la femme cananéenne? L'humilité, elle se trouve dans la foi aussi. La reconnaissance de la supériorité de Dieu. Et là, cet homme va expliciter plein de choses intéressantes. Je ne suis pas qualifié de te recevoir dans ma maison, mais j'ai compris quand même quelque chose. Tu n'as qu'un mot à dire. Et mon serviteur sera guéri. Alors si lui ne croyait pas en Jésus, et il donne l'exemple, il a compris comment ça marche. Moi-même, je ne suis qu'un officier, subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Il a bien compris que Jésus, c'est lui qui commande. Que ce que sa bouche prononce, pardon, sa main l'accomplit. Il a reconnu la supériorité de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Écoutons la réponse de Jésus. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration. Et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, vraiment, j'aime bien sa traduction, ça change du en vérité, je vous le dis, c'est plus dans notre langage. Vraiment, ah, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Waouh ! Il a fallu aller chez un païen, un soldat romain, pour trouver une foi pareille. Quand même. Jésus, rempli d'admiration devant cette foi. Moi, ça me laisse perplexe. Hein. Est-ce qu'il est rempli d'admiration devant ma foi? Ça, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que Jésus est rempli d'admiration devant ma foi? Donc la foi, c'est croire que Jésus est supérieur. La foi, c'est croire que Jésus est plus grand que tes problèmes. La foi, c'est croire que Jésus est plus grand que la montagne qui se dresse devant toi. Et si on n'est pas encore convaincu, on va continuer avec Matthieu 8. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Ils ont réveillé Jésus. « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. Est-ce que Jésus a été admiratif devant leur foi ? Comme il l'a été devant la foi de ce soldat romain. Hein ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Votre foi est bien petite. C'est fou, hein ? Dans le peuple de Dieu, il y a plus d'exemples de personnes qui n'avaient pas la foi qu'à l'extérieur. Votre foi est bien petite. Et puis Jésus, ben là, il s'est levé, il a parlé sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Et là, ben, les disciples n'en revenaient pas. Qu'est-ce qu'ils regardent, les disciples ? Encore une fois, ils regardent la tempête. Ils regardent les vagues qui passent par-dessus bord. Mais c'est vrai qu'humainement, c'est impressionnant. La raison nous pousse à sortir toutes les alarmes possibles. On est en danger. Tous les voyants passent au rouge. Mais que fait Jésus ? Il dort. Il montre l'exemple. Dans ce pareil contexte, Jésus attendait de ses disciples qu'ils soient sereins, qu'ils restent calmes, qu'ils fassent confiance, qu'ils croient de tout leur cœur que même si la barque bouge, même bouge c'est un petit mot, hein, même si l'eau passe par-dessus bord, même si on a l'impression que ça va couler, Jésus est là. Alors, je ne m'agite pas. Jésus est là, alors je reste calme. Jésus, lui, Il dort paisiblement au milieu de la tempête. Et il nous montre l'exemple. Au milieu de la tempête, il faut que tu apprennes à rester calme. Et le calme, ce n'est pas du self-control. C'est « non, je fais confiance à Jésus ». Cette foi que j'ai placée en Jésus, si elle est réelle, alors je vais rester calme, même au milieu de la tempête. Même si Jésus ne calme pas la tempête tout de suite, je vais rester calme. Alors je sais, facile à dire. Mais Jésus nous demande de rester calme, même dans la tempête. Matthieu 17. Versets 14 à 20. Quand il fut revenu auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Ah. N'a peur de lire les remarques de Jésus. Jésus s'exclama alors, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir. Et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors en aparté, on ouvre le rideau derrière, les disciples prirent Jésus à part et ils le questionnèrent. « Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à chasser ce démon ?» Et Jésus leur répond, « Cache, parce que vous n'avez que peu de foi. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, et la graine de moutarde, c'est la semence la plus petite qui soit, vous pourriez commander à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque là-bas et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. » Si vous aviez de la foi, même de la taille d'un grain de moutarde. Et l'image de la montagne, c'est une image. À l'époque, c'était pour montrer les problèmes qui sont devant toi. Tu aurais le pouvoir de les déplacer. Est-ce que je crois que Jésus est plus grand que ma montagne? Ou est-ce que je vois ma montagne et ma montagne, je la vois tellement grosse que je n'arrive même pas à voir la puissance de Jésus? Honnêtement, dans beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans notre vie, on regarde la montagne. On la voit plus grande que Jésus. Vous n'êtes pas d'accord? Ben si. Et la montagne, elle devient déplaçable quand je regarde Jésus et quand je crois qu'il est plus grand que ma montagne. Alors j'ai laissé cette petite chose, ce petit verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière qui n'est pas présent dans tous les manuscrits. Il n'y a pas l'unanimité. Par contre, il y a l'unanimité sur la réponse de Jésus à ses disciples. Parce que vous n'avez que peu de foi. Tous les manuscrits sont d'accord. Alors n'essayons pas de chercher un petit truc. Jésus a donné la réponse. C'est votre foi. On va encore lire un texte dans Matthieu 13, Quand Jésus finit de raconter ses paraboles, il partit de là, il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait « Mais d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous ? D'où a-t-il reçu tout cela ?» Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit « C'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Là, on voit une description de Jean. C'était l'environnement où Jésus avait grandi. Est-ce qu'ils reconnaissent la divinité de Jésus ? Ben non. Ils mettent les yeux sur la raison. Ils raisonnent. Jésus, c'est le fils de Joseph, le charpentier. Sa maman, c'est Marie. Il y a ses frères, il y a ses sœurs. Il n'a rien de particulier, ce Jésus. De où tient-il tout ça ? On ne sait pas. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était réellement le Messie, le Sauveur et celui qui avait tous les pouvoirs, le Fils de Dieu, l'empreinte de Dieu sur terre. Et tout lui est soumis. Et là, on a une remarque au verset 58. Aussi, ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Oh ! L'incrédulité, c'est un frein au miracle que Dieu peut faire. C'est fou, hein ? La foi est nécessaire pour voir la puissance de Dieu s'accomplir. Et on voit là, on ne sait pas, mais il y avait sûrement des malades à guérir. Mais il n'y a pas eu beaucoup de miracles. Parce que dans toute cette communauté, dans tout cet endroit, il y avait de l'incrédulité. Ce n'était pas forcément le manque de foi des malades. Hein. Dans tout cet ensemble, il y avait beaucoup trop d'incrédulité. Alors, c'est marqué. Jésus ne fit que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Si on veut voir des miracles s'accomplir, il faut croire que Jésus est plus grand que nos montagnes. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que je crois de tout mon cœur ? Ou est-ce que je raisonne ? Quand même. Soyons raisonnables. Dans Matthieu 11, 25, ce sera le dernier verset, et c'est bien, je suis dans les temps. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Si tu es trop grand dans la raison, ça va t'échapper. Ailleurs, Jésus a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. C'est pas un blâme hein, de ressembler aux enfants. C'est pas une insulte. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Si tu raisonnes tout le temps, la foi va t'échapper. Si tu acceptes de devenir un enfant, de regarder à Jésus de tout ton cœur, tu vas te mettre à croire en lui. Et croire de la bonne manière. Croire que c'est lui qui est tout-puissant. C'est lui qui est plus grand que ton problème. Toi, tu es petit, mais ça ne dépend pas de toi. La solution ne dépend pas de toi. Tout ce qui dépend de toi, c'est de regarder Jésus et de croire qu'il est le tout-puissant. Et tu vas voir. Les choses vont changer. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Jésus, il est Dieu. C'est lui qui sait changer le cours des choses. C'est lui qui tient tout dans sa main. Alors tu me diras, bah ouais, mais enfin, regarde ma situation, c'est particulier. Maintenant, moi... Non, arrête de raisonner. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Arrête de discourir. Regarde à Jésus et crois. La solution ne va peut-être pas venir tout de suite, mais regarde à Jésus. Amen.